l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de l'Actu des oubliés. En ce mois de janvier 2026, la majorité des pays des Balkans sont animés par d'intenses vagues de contestations sociales. Comme nous l'évoquions au printemps dernier lors de notre épisode sur la Serbie, les préoccupations de la génération Z font tache d'huile, non seulement chez les aînés, mais aussi dans les pays voisins. C'est désormais en Roumanie, en Albanie, mais aussi en Ukraine et surtout en Bulgarie que la jeunesse allume des feux pour dénoncer des systèmes politiques privatisés par la mafia néolibérale. Le contexte en Bulgarie, c'est d'abord un pays qui est soumis à plusieurs axes de tension. D'une part, comme toute la région, le pays qui n'est séparé de l'Ukraine que par la Roumanie est divisé entre pro-russes, à l'image du président, et une frange de la population qui souhaite poursuivre le rapprochement avec l'Europe de l'Ouest. Le gouvernement en place depuis 11 mois essaye de trouver une position centrale entre ces deux tendances. Il a surtout à charge de préparer l'imminente arrivée de l'euro. La Bulgarie doit adopter la monnaie unique, ce qui provoque d'intenses clivages dans la société et une crainte que les prix n'augmentent. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est le projet de budget 2026, dans lequel les impôts et les cotisations sociales augmentent afin de financer une hausse des dépenses publiques. Le discours de l'État promet de meilleurs services publics, mais dans les rues, on craint que cette augmentation ne finisse dans les poches de ceux qui détournent déjà de l'argent au sein des administrations. Dès le 1er décembre, 50 000 personnes descendent dans les rues de la capitale Sofia. Ventsislava Vassileva, une étudiante de 21 ans, dit alors à l'AFP « C'est une manif pour le futur, pour une Bulgarie européenne sans corruption et sans mafia ». On découvre des banderoles telles que « La Gen Z arrive » ou encore « Une Bulgarie jeune et sans mafia ». Ce qui est dénoncé directement, c'est l'opacité des budgets de l'État. On accuse les projets gouvernementaux de perpétuer les privilèges de secteurs qui permettent aux puissants de s'enrichir sur le dos du peuple. On sent que de tous côtés, des intérêts internationaux tentent de présider au destin de la Bulgarie, sans que les conséquences pour le peuple bulgare ne soient réellement prises en considération. On dénonce les ingérences russes tout en soupçonnant que l'arrivée de l'euro profitera en premier lieu à l'Allemagne et non aux Bulgares. Des barricades sont dressées et dans la soirée, les locaux de deux partis membres de la coalition au pouvoir sont incendiés. Le gouvernement annonce dans la foulée vouloir retirer son budget, mais quelques jours plus tard, il fait marche arrière. La colère gronde et la génération Z reprend les rues dès le week-end. « Vous ne mentirez pas à cette génération-là » devient l'un des slogans les plus entonnés. Et c'est alors que dans la rue comme sur les réseaux, les sujets politiques font irruption. Démocratie réelle, corruption, dénonciation des bas salaires dans le milieu médical ou encore liberté de la presse deviennent des tendances en quelques heures. La Bulgarie est, selon des études 2025, le deuxième pays le plus corrompu d'Europe et le pire pour la liberté de la presse avec Chypre et la Grèce. Jour après jour, la place du Parlement peine à contenir la foule tandis que des centaines de personnes restent bloquées dans les bouches de métro. « Je n'aurais jamais cru que tant de personnes viendraient », lâche un policier. Un vieil homme clame.
« Ils ne devraient pas être autorisés à entrer dans le Parlement. Nous devrons être là tous les jours pour les empêcher d'agir. » Qui sont-ils pour prétendre que tout leur appartient? Et Pivski, il se prend pour qui?
La jeunesse réclame en effet la fin de l'influence des oligarques sur l'État, en chantant « Boyko, Pivski, dehors !» Sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni pour corruption et détournement de fonds, Deliapivski est un homme d'affaires largement ciblé sur les réseaux comme symbole de la corruption et du népotisme en Bulgarie. Il est décrié pour ses liens avec Moscou et sa volonté d'éloigner le pays du reste de l'Europe. Borisov, lui, fut 3 fois Premier ministre dans les 15 dernières années, c'est-à-dire les 2/3 du temps, et c'est encore son parti qui est au pouvoir. Bien qu'il ne soit même pas ministre, sa présence est incontournable dans la politique bulgare. Malgré son absence de mandat, il fait des annonces à tout va et ne se cache pas d'être celui qui tire les ficelles en coulisses. Les deux hommes sont largement représentés dans les cortèges, comme cette pancarte qui caricature Pivski avec des cornes du diable sur le crâne. Une affiche le montre avec une tête de cochon, assis sur une énorme citrouille, occupé à compter ses billets verts. Sous le dessin, une phrase indique « La Bulgarie n'appartient pas au port ». La colère est plus largement dirigée vers les partis politiques. On demande la démission du gouvernement et la convocation d'élections anticipées, mais toute la classe politique est répudiée. La problématique ne vient pas de surgir. En mars dernier déjà, des manifestations avaient réuni des milliers de personnes devant la mairie de Sofia. La lassitude est palpable de cet État confisqué par les oligarques. Dès début décembre, les lettres MA et FI sont projetées sur le Parlement. 3 lettres qui signifient « mafia ». Une femme déclare
« They have no shame ».
Ils n'ont honte de rien, et ils le montrent très publiquement. Et ils pensent que les gens sont stupides et qu'ils ne comprennent pas les systèmes qu'ils mettent en place. Et ça, je crois que c'est très spécifique de la corruption à la Bulgare.
Le 10 décembre, une nouvelle version du budget arrive au Parlement. La rue répond « Ostavka, Ostavka, Ostavka ». Démission. 150 000 personnes sont dans les rues, davantage encore que la semaine passée. Voici ce qu'un manifestant dit du nouveau budget.
Eh bien, le budget est sensiblement le même. Ils enlèvent des trucs, ils en mettent d'autres, mais si tu regardes bien, l'essentiel est là. Ils augmentent les taxes, ils suppriment la liberté de la presse, menacent la liberté d'étudier et criminalisent les protestations. Nous pensons que tant que ce gouvernement sera debout, rien de très signifiant ne pourra changer. Les personnes qui causent du tort sont vraiment une toute petite minorité. Personnellement, je ne suis pas effrayé. En fait, nous n'avons jamais eu une aussi grande vague de protestations, donc non, je n'ai pas peur.
Such large protests as you can see right now.
Aux alentours de 8h du soir, la foule se dirige vers les locaux du parti de Deliapivski. Dans le cortège, on chante « Quand Pivski tombera, je ne veux pas être en dessous, sinon il tombera sur moi ». Une fois sur place, les fenêtres sont brisées par des jets de bouteilles et des feux sont allumés pour empêcher la police d'intervenir. De tous côtés, l'on cherche à récupérer la colère de la jeunesse. Le président pro-russe réclame la chute du gouvernement, lui qui bénéficierait de pouvoirs élargis dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Et cela peut prendre du temps. D'autre part, le secteur atlantiste et pro-OTAN fait pression pour se mettre au cœur du jeu et veut se convaincre que la jeunesse bulgare roule avec lui. Enfin, l'extrême droite nationaliste se tient en embuscade pour récupérer la révolte de manière opportuniste. Or, le message de la jeunesse est justement « Laissez-nous décider pour nous-mêmes, laissez-nous faire grandir ce pays sans vous, sans corruption ».
Кажи ми, брато, знам всичко се знае и мълчи се. Защо?
C'est une chanson qui est entonnée dans l'ensemble des Balkans et au-delà, de la Serbie à la Géorgie, en passant par la Roumanie et même l'Ukraine. Les mouvements se succèdent contre la corruption et l'accaparement des richesses par une élite nationale, issue du système politique stalinien, soutenue et corrompue par des intérêts transnationaux, qu'ils viennent de Russie ou d'Europe de l'Ouest. En Serbie d'abord, voilà plus d'un an que la génération Z est vent debout contre le président Vučić. Dans un contexte où les syndicats n'appellent pas à la construction d'une grève durable, le manque d'auto-organisation des travailleuses fait que le mouvement ne parvient pas à submerger le pouvoir. Mais les rassemblements sont encore massifs et la jeunesse fait face à la répression avec courage. La raison de la colère est similaire. La corruption, le pillage des ressources tant par la Russie que par l'Allemagne et l'Union européenne, notamment avec le lithium de la vallée de Jadar. La victoire de ce mouvement, c'est pour l'instant d'avoir repolitisé largement la population, notamment en organisant de grandes marches, des tables rondes et des occupations de places publiques jusque dans les plus petits villages du pays. Nul doute que cette résistance de longue haleine chez le voisin serbe active les sympathies et résonne en Bulgarie comme ailleurs. De l'autre côté de la mer Noire, voilà plusieurs années que des mobilisations massives réclament un changement radical de paradigme en Géorgie. À Tbilissi, la jeunesse dénonce la mainmise sur la politique économique des oligarques liés à la Russie et la corruption à tous les niveaux de l'État. Lié à Poutine, le Premier ministre a suspendu le processus d'adhésion à l'Union européenne et fait voter une loi miroir à celle que le tyran russe a fait voter dans son pays. Toute ONG recevant des financements de l'étranger fait désormais l'objet d'une surveillance appuyée du pouvoir. À tel point que pour des organisations politiques ou de soutien aux personnes transgenres, par exemple, leur activité devient nécessairement clandestine. D'autant qu'une loi anti-LGBT rend quasiment illégale l'existence des personnes trans dans le pays. Le parti au pouvoir, indéboulonnable, notamment grâce à la fraude électorale, ne sait plus quoi faire pour empêcher la population de se révolter. Après des condamnations en masse d'opposants, une répression de genre spécifique envers les femmes et l'utilisation de barbouzes pour attaquer les cortèges, le gouvernement a réprimé les foules avec du kamit, un gaz incapacitant qui provoque brûlures, toux et vomissements. C'est un reportage de la BBC qui révèle l'utilisation de ce gaz dont l'usage remonte à la Première Guerre mondiale, après des accusations venues des activistes géorgiens. À Amnesty International, Mariam Japaritse, 24 ans, raconte.
Malgré cette violence, malgré mes craintes, je suis retournée dans les rues tous les soirs. En décembre, alors que je participais à un rassemblement pacifique à Tbilissi, les forces de l'ordre nous ont attaqués. Des gaz chimiques pleuvaient de partout, y compris depuis le toit des bâtiments. Dans les rues étroites de la ville, il était très difficile de s'orienter et quasiment impossible de s'enfuir.
La répression spécifique à l'égard des femmes s'est généralisée au cours de l'année 2023. Menaces de violences sexuelles, déshabillements forcés, crachats, humiliations, gestes dégradants. Les exactions commises par les forces de police s'inscrivent dans le cadre de tactiques qui ont pour but d'intimider spécifiquement les femmes. Denis Krivoshiv, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, estime.
Les autorités ont peut-être espéré qu'en ciblant les femmes avec les menaces de violences sexuelles, des descentes à leur domicile, des fouilles au corps illégales et des détentions arbitraires, elles écraseraient l'esprit de résistance, dissuaderaient les manifestantes de se rassembler à nouveau et les réduiraient au silence. Cependant, les femmes de Géorgie se sont révoltées encore plus vigoureusement en dénonçant ces violences, en demandant justice et en affichant leur résistance et leur défiance face à la répression.
Malgré la peur, les manifestations se poursuivent en effet, comme début octobre où des dizaines de milliers de personnes se sont encore réunies à Tbilissi. En ce week-end d'élections locales boycottées par l'opposition, géorgiens et géorgiennes sont allés voter à leur manière en tentant d'envahir le palais présidentiel. À la suite de cette manifestation, le pouvoir demande à la Cour constitutionnelle l'interdiction et la fermeture de trois partis d'opposition, accusés de jouer contre l'ordre constitutionnel et de saper la légitimité du gouvernement. Or, la jeunesse géorgienne continue de se battre sans relâche, dans la clandestinité, depuis l'étranger ou même depuis les prisons du pays. Mariam poursuit.
Nous avons porté la mobilisation avec un immense courage. Des amis m'ont raconté que les autorités étaient venues toquer à leur porte pour menacer les parents, qu'ils perdraient leur emploi si nous n'arrêtions pas de protester. Aujourd'hui, une grande partie des prisonniers politiques sont des jeunes de mon âge. Pourquoi cet acharnement ? Je pense qu'ils savent que nous sommes non seulement éduqués, mais que nous avons aussi la capacité de construire un avenir meilleur pour notre pays. Même en prison, nous continuons de nous mobiliser. Certains écrivent des journaux que leurs parents impriment et diffusent dans le pays, jusqu'aux régions les plus reculées. J'ai conscience que ce combat peut prendre des années, mais je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter un changement pour notre pays. Cela me donne la force d'avancer. J'ai donc beaucoup d'espoir pour la Géorgie.
En Ukraine, on se souvient du récent scandale de corruption qui a éclaboussé le président Zelensky. L'affaire concerne des pots de vin versés à de hauts dignitaires ukrainiens par des entreprises travaillant avec la Compagnie nationale du nucléaire. Le bras droit du président ukrainien est notamment impliqué, mais aussi deux ministres de Zelensky, tandis que l'un de ses amis proches est accusé du blanchiment de l'argent détourné. L'été dernier, de manière inédite depuis l'invasion russe, la jeunesse ukrainienne avait d'ailleurs occupé les rues et fait plier le pouvoir, alors que Zelensky voulait inféoder les agences anticorruption à l'exécutif. « Zelensky, dans quel camp es-tu ?» criaient les protestataires face au palais présidentiel. Il faut se souvenir que la révolte de Maïdan dénonçait un pouvoir gangréné et que Zelensky a été élu avec la promesse d'en finir avec la corruption. 12 ans plus tard, la jeunesse de Kiev n'a pas hésité à sortir, fière de son courage et de sa détermination à ne rien lâcher, même si sa ville est bombardée tous les soirs. Une semaine plus tard, le président doit faire volte-face et rétablir l'indépendance du Bureau national anticorruption et du parquet judiciaire spécialisé dans l'anticorruption. Accusés de complicité avec l'ennemi russe, deux journalistes anticorruption avaient alors été incarcérés. En fait, ce sont eux qui enquêtaient sur l'affaire de corruption qui vient d'éclater. Ils ont été libérés récemment, à la suite de la démission du ministre de la Justice impliqué dans l'affaire. En Albanie, là encore, il s'agit d'une affaire de corruption qui met le feu aux poudres. C'est la vice-première ministre qui a été inculpée par les procureurs de Tirana. Elle est soupçonnée avec d'autres responsables politiques et des chefs d'entreprise d'avoir faussé des appels d'offres publics pour des infrastructures, notamment le périphérique routier de la capitale. Dans une marche, Arben Soulo déclare à Reuters
« Nous en avons assez, car il s'agit de dizaines, voire de centaines de millions d'euros volés. Et Belinda Baloukou refuse de démissionner. C'est scandaleux. »
Dans le centre de Tirana, les tensions se sont succédées juste avant les vacances de fin d'année. Voilà déjà plusieurs semaines qu'une poignée de personnes campent jour et nuit devant les portes du palais du Premier ministre, lorsqu'au Parlement, des députés de l'opposition s'en prennent à lui et allument des fumigènes en pleine session parlementaire. « On ne peut pas faire Parlement avec ceux qui volent et fuient », clame une élue. Le 22 décembre, une manifestation réunit plusieurs milliers de personnes et le palais du Premier ministre est attaqué au cocktail Molotov. Suite en 2026. Quant à la Roumanie, elle se trouve en proie à un scandale de corruption massive au sein de la sphère judiciaire. D'abord, c'est le média d'investigation Recorder qui sort début décembre un film documentaire de 2 heures intitulé « Justice capturée ». Une véritable enquête qui s'intéresse au système judiciaire alors que des dossiers de grande corruption sont systématiquement enterrés, que ce soit par des acquittements en appel tombés de nulle part, par le report éternel des procès jusqu'à ce que les faits soient prescrits, ou encore par des condamnations jamais véritablement appliquées. Dans une affaire célèbre, les juges ont ainsi été remplacés à 5 reprises sans que ce turnover ne soit réellement justifié. C'est finalement tout un système qui est mis à jour. D'abord, le camp politique met en place une organisation pyramidale du pouvoir judiciaire. Puis, en mettant à sa tête un petit groupe de magistrats dont la complicité discrète est assurée, il assure l'amnistie permanente des politiciens ou hommes d'affaires corrompus qui ont le malheur de se faire prendre. Avec le reportage de Recorder, l'ampleur de la corruption est révélée. Non seulement l'influence du politique sur le judiciaire apparaît au grand jour, mais on parle carrément de violations caractérisées, que ce soit en matière de distribution des dossiers à tel ou tel juge, de partialité systémique, ou de mise au placard des juges qui ne collaborent pas, parfois jusqu'à l'exclusion de la magistrature. La sortie du film, qui affiche 5 millions de vues en 2 semaines pour 19 millions de personnes vivant en Roumanie, est suivie de prises de parole de certains magistrats ou anciens magistrats qui ajoutent encore de l'eau au moulin. Les révélations jettent immédiatement la jeunesse roumaine dans les rues. Devant le Conseil supérieur de la magistrature, on scande « Justice oui, corruption non, voleur » ou encore « On vous voit ». La société civile n'accepte pas un système intrinsèquement corrompu et conçu pour être manipulé de l'intérieur, témoigne à l'AFP Vlad Voinea, un informaticien de 40 ans. Là encore, nous sommes dans un pays coincé entre les impérialismes russes et occidental. On se souvient d'abord de l'élection annulée du candidat pro-russe en décembre dernier, sur fond de déstabilisation venue du Kremlin. Puis en septembre, la Roumanie battait le pavé pour dénoncer la politique d'austérité mise en place par le gouvernement sous les ordres du FMI et de Bruxelles. De nouvelles mesures d'austérité telles que des hausses d'impôts et de la TVA, le gel des salaires et des pensions de fonctionnaires ont été votées pour tenter de respecter l'engagement pris avec l'Union européenne de réduire le déficit de 8%, déficit directement lié à la dette contractée dans les années 2010 auprès du FMI. L'appauvrissement de la population est devenu une politique d'État, disait alors le bloc syndical, dénonçant l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et déjà la corruption. Dès le mois d'août, les enseignants étaient les premiers dans les rues contre une loi de restructuration qui devait les contraindre à travailler 2 heures de plus par semaine dans des classes surchargées, jusqu'à 36 élèves par classe. « Démission, démission » criait-il devant le ministère. Début septembre, la rentrée scolaire n'avait pas eu lieu. 20 000 personnes se réunissaient à Bucarest devant le ministère. Là encore, nous sommes dans un pays coincé entre les impérialismes russes et occidental. On se souvient d'abord de l'élection annulée du candidat pro-russe en décembre dernier, sur fond de déstabilisation venue du Kremlin. Puis en septembre, la Roumanie battait le pavé pour dénoncer la politique d'austérité mise en place par le gouvernement sous les ordres du FMI et de Bruxelles. De nouvelles mesures d'austérité telles que des hausses d'impôts et de la TVA, le gel des salaires et des pensions de fonctionnaires ont été votées pour tenter de respecter l'engagement pris avec l'Union européenne de réduire le déficit de 8%. Alors que la plupart des hausses d'impôts décidées cet été doivent intervenir au 1er janvier, le scandale sur la corruption de la justice provoque logiquement la colère, d'autant que le gouvernement d'Ili Bojovan avait déjà été entaché d'une affaire de corruption qui s'était conclue par la démission d'un vice-premier ministre. Le mercredi 11 décembre, lendemain de la sortie du documentaire, plus de 5000 personnes se rassemblent sur la place de la Victoire. Sur la page Facebook de l'événement, on peut lire
« Le courage des magistrats qui ont décidé de s'exprimer publiquement sur les irrégularités du système judiciaire et sur la corruption à grande échelle doit être soutenu depuis la rue. Nous ne pouvons pas rester chez nous. Il est de notre devoir d'exercer la pression nécessaire pour sauver la justice en Roumanie.
Jeudi après-midi, soit deux jours après la diffusion de Justice capturée, alors que sa hiérarchie organise une conférence de presse pour nier les accusations du reportage, la juge à la cour d'appel Raluca Moroșanu prend la parole. Elle soutient ouvertement l'un des juges qui témoigne à visage découvert dans l'enquête, s'associe à sa parole et dénonce les pressions dont elle et ses collègues font l'objet de la part de leur hiérarchie. Quelques heures après son intervention, les rues se remplissent de nouveau, cette fois dans l'ensemble du pays. De Cluj à Constanța, de Sibiu à Timișoara et d'Oradea à Brașov, on chante aussi « Respect Raluca » pour rendre hommage à sa prise de parole. Les protestataires réclament la révocation de la présidente de la Haute Cour de cassation et de justice et la démission du ministre. Une réforme profonde pour une justice transparente et égalitaire est exigée. Une loi qui garantisse l'indépendance des tribunaux face au pouvoir politique et des mesures concrètes contre la corruption. Dans la foulée, se solidarisant avec leurs collègues qui témoignent dans l'enquête, 900 juges et procureurs publient une lettre dénonçant des dysfonctionnements profonds et systémiques. Malgré ça, les hauts magistrats continuent de nier qu'il y ait eu des abus. Raluca Moroșanu, elle, donne une interview au Media Recorder et raconte dans les grandes lignes les pressions subies, les fraudes aux élections internes des cours de justice et d'autres violations du droit qui fait que le système perdure. Elle explique que ce que le reportage a relevé, ce ne sont pas des épisodes, c'est la normalité. Et les situations frauduleuses sont bien plus nombreuses que les quelques exemples donnés dans l'enquête, affirme-t-elle. Elle raconte enfin comment les magistrats de la cour d'appel reçoivent des formations et des séminaires où on leur explique qu'il faut être humain, comprendre les problèmes des accusés et ne condamner les évasions fiscales qu'en dernier recours. Elle conclut en affirmant que, pour changer le système, il faut décapiter toute la chaîne de hiérarchie jusqu'à la présidente de la Cour suprême. Dans la rue, on reprend le soir même.
Corruptia distruge justitia.
Corruptia distruge justitia.
Corruptia.
Des banderoles sont déployées où apparaît le visage de Raluca surmonté du mot « courage ». Les marches se poursuivent jusqu'aux vacances de fin d'année, avec jusqu'à 10 000 personnes à Bucarest. S'adressant au président, une pancarte clame « Notre travail est de nous révolter, le vôtre est de destituer tout ce beau monde et de nommer des gens honnêtes à la justice. » Et au même moment en Bulgarie, le gouvernement tombe. Les émeutes du 10 décembre ont eu raison de lui. D'abord, il annonce pour la troisième fois l'abandon du budget 2026, avec cette fois un effet immédiat suivi au Parlement. Et dans la soirée, le Premier ministre Zhelyakov démissionne sous la pression de la rue. C'est finalement le budget 2025 qui est reconduit pour l'année qui arrive. Or, les manifestations sont déjà prévues pour la semaine suivante. Et loin de se contenter de la victoire, tout le monde veut aller plus loin. À la tribune, un homme prend la parole.
En 2013
et en 2020, nous nous sommes arrêtés sans finir le travail. Nous n'avons pas été assez persistants, nous n'avons pas été assez persévérants, mais nous étions moins nombreux à l'époque. Ces jours-ci, dans 25 villes bulgares, nous avons vu les étudiants, les jeunes, les retraités, les professions libérales et tellement d'autres gens, tous ensemble. C'est qu'en 2013 et 2020, deux séquences de protestations avaient alerté sur le ras-le-bol qui jalonnait la jeunesse, en particulier contre Borisov, Premier ministre à l'époque. On avait alors appelé le mouvement « la révolution de la dignité », mais il avait été récupéré par les politiciens. Or, c'est dans ce mouvement que le blocage politique actuel prend racine. Une nouvelle force politique avait alors émergé, constituée de plusieurs partis mettant en avant leur volonté de lutter contre la corruption et de représenter véritablement le peuple. Irréconciliables avec les partis traditionnels, ces petits partis n'ont pourtant pas assez de force pour constituer leur propre coalition, mais sont assez puissants pour gêner considérablement les partis traditionnels. C'est donc le 7e gouvernement en 4 ans qui vient de tomber. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de turnover dans la classe politique. Lors de la dernière élection législative, seulement 39% du Parlement a été renouvelé. Et visiblement, les électoristes sont usés. En 2021, 49% des gens étaient allés voter. En octobre 2024, seuls 38% des personnes en âge de voter s'étaient déplacées. Une étude montre que le scrutin n'est pas exempt de fraude. Jusqu'à 10% des bulletins auraient pu être modifiés en 2024 et finalement, 16 députés ont vu leurs élections invalidées. Pour toutes ces raisons, les Bulgares veulent dépasser la victoire sur le budget et profiter de l'élan pour aller plus loin. Reprenant une image phare des manifestations monstres dans la Serbie voisine, les protestataires brandissent leur téléphone en mode lampe-torche lorsque l'hymne national résonne. Puis la foule chante encore « Vous avez énervé la mauvaise génération ». Antoine Tacuic confie à la paix. « Nous exigeons le changement. Nous sommes fatigués que les choses restent les mêmes. Tout est mensonge, tromperie et corruption. C'en est assez. Les gens sont prêts à se lever pour leurs droits par tous les moyens nécessaires. Nous appelons à des élections libres et égalitaires et demandons que les figures auxquelles nous avons été perpétuellement confrontés s'en aillent. » Pivski, Borisov et tous ceux qui tournent autour, nous leur demandons de partir. Et pour cela, nous prendrons les rues. Nous sommes préparés à être ici toutes les nuits si nécessaire. Nous n'abandonnerons pas. Le changement est requis. Urgemment. Chillin' with Tumblr and smoking and lights. I still keep on winning while losing these nights. Dopamine, I don't care. Let them stare. Look what she wears. How does she dare? So I put on more gold. Middle fingers in the air. Dopamine, num pasă. Nu ies din casă. N-ai nicio șansă să mă scoți din transă. Că vibe-ul-i prea bun. Iar eu prea atrasă. C'était le 5e épisode de l'Actu des Oubliés. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au doublage, c'était Aurélien, Marie-Lou, Marielle et Do. Pour les sources de cet épisode, vous pouvez consulter notre audioblog L'Actu des Oubliés. You beat out the Viats and Martinez and being dopamine. I don't care, I don't care. Dumb dopamine, num pasă, num pasă. Give me dopamine. I don't care, I don't care. Dumb dopamine, num pasă, num pasă. Dopamine, I don't care. Dopamine, num pasă. Noom, pasa, no. All I do, I adore. Start dancing in the middle of the store. I don't care if they be looking, I want more. All is fair in love and war. Pun căștile, n-aud nimic în afară de beat și e bine. Iubesc ca o sun care mama dâncii. Nici nu vreau, nici nu mă pot abține. Dopamine. This shit keeps me going. Commit to learning and keep on growing. Less talking, more showing. Future brighter than gold and it's glowing. Dopamina. Sunt prea inspirată că noaptea e așa colorată. Sunt prea motivată. Vreau muncă și vreau și răsplată. Quant à la musique, vous avez pu écouter Bolen Zdravnozi de Protest, Style Bohème de Gokata et Fire, et en ce moment, C8H11NO2 de Energia. Belle lutte, bon mois de janvier, et à très vite pour un nouvel épisode de l'Actu des Oubliés. Dopamine, num pasă.
sad numa pasano. Dopamina. 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 I don't care, I don't care. Dumb dopamina. Numa pasa, numa pasa. Give me dopamina. I don't care, I don't care. Dumb dopamina. Numa pasa, numa pasa. No. Numa passa, numa passa, não.